J'avais proposé de, du coup, avec le changement d'heure, démarrer 1 heure plus tôt et faire 1 heure de prédication en plus, mais ma proposition n'est pas passée. Voilà, le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans Éphésiens, et c'est dans la suite de notre série sur l'épître aux Éphésiens. Mais je vais commencer par un verset de Genèse pour introduire ces moments. Genèse 11, verset 8. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Quand on cherche des chansons sur la solitude, on a des centaines de réponses. Et une particulièrement qui m'a touché, c'est Message in a Bottle du groupe Police. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent. Oui, voilà, c'est aussi vieux que Star Wars, j'ai le droit de connaître ça. qui a beaucoup inspiré de nombreuses chansons par la suite. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui est naufragé sur une île déserte. Et dans sa solitude, il choisit d'envoyer justement une bouteille à la mer avec un message où il écrit sa solitude. Et au bout du troisième couplet, on se rend compte lui-même va recevoir, d'un seul coup, il va arriver sur la plage, il va voir des centaines de milliards de bouteilles. Et il réalise, ok, je ne suis pas le seul à être seul. Alors, c'est clairement un besoin qu'on a dans notre cœur, ce besoin de communion. Et je remercie Jérémy d'avoir introduit tous les grands thèmes de ma prédication. C'est vraiment bien d'avoir cette unité-là. Cette communion qu'on recherche, chacun en tant qu'être humain, et Dieu a une réponse à cette aspiration. Alors, par rapport à l'Épître aux Éphésiens, je peux vous assurer que les prédicateurs qui s'y collent, on se régale. C'est vraiment une épître qui est très belle. La Rolls-Royce des épîtres pour certains commentateurs. Et c'est une épître que Paul adresse aux chrétiens de la région d'Éphèse, peut-être pas seulement Éphèse, où Paul y décrit toute la pleine bénédiction spirituelle qui vient de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en lui. Alors, c'est-à-dire le grand amour dont Dieu nous a aimés, nous qui étions morts dans nos fautes. Il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour nous ressusciter par grâce et nous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ. Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu jusqu'ici, quelques mots du chapitre 1 et puis en particulier le début du chapitre 2 que Mamie a présenté la semaine dernière. Et maintenant, on peut se poser une question, c'est la grâce que Dieu nous donne, la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, est-ce que c'est quelque chose d'individuel? Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt de collectif? Et déjà, dans le passage de la semaine dernière, on a au verset 8, alors je vais vous le lire, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Même dans. C'est un seul mot, même co-ressuscité, voire même co-fait asseoir, alors ça c'est très difficile. Il y a quelque chose de collectif. Et. Il faut dire, chacun est appelé personnellement par Christ. Jésus, à plusieurs reprises, il dit à certaines personnes, à Pierre, à Philippe ou à Matthieu, par exemple, il leur dit, suis-moi. Même à certains moments, toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. À Pierre. Mais, quand même, nous sommes appelés personnellement et responsables de répondre. Nous sommes ressuscités collectivement. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu. Et le texte que nous allons lire, alors qui est introduit donc par le texte de la semaine dernière, il nous montre ce plan collectif, ce plan grandiose de Dieu pour son peuple. Ce peuple qu'on appelle l'Église, avec un grand E. Alors, on va lire ce texte. Alors, j'ai pris dans la version NBS. Alors, c'est écrit petit, je vais parler fort. Souvenez-vous donc de ceci. Vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, vous étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer, comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être, dans le Seigneur, un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Alors bien que ce soit un texte très riche, peut-être assez complexe, le plan du texte est quand même simple. Tu peux le montrer. Merci. On a des collecteurs. Alors autrefois, le début, il nous parle du passé, autrefois sans Christ, versets 11 et 12. Ensuite, mais maintenant, par Christ, il y a ce mais maintenant, je ne sais pas si vous l'avez repéré, et ainsi donc, en Christ. Donc comme pour les 10 premiers versets du chapitre 2, on va commencer par voir notre situation autrefois, en l'occurrence celle de non-juifs, loin de Dieu, puis on voit l'action de Jésus-Christ pour nous rapprocher de Dieu, et enfin on conclut en voyant le résultat merveilleux de cette action. Alors, en répétant la même structure qu'au début du premier chapitre, on peut se dire que finalement, Paul est en train de nous réexpliquer l'évangile sous une autre facette, et peut-être une facette qu'on oublie souvent, plus souvent. Le but de ce texte, c'est de nous émerveiller de la bénédiction collective de paix que nous avons en Jésus-Christ, dans l'Église. Alors, ce n'est pas du tout une parenthèse dans l'Épître aux Éphésiens, c'est vraiment un des thèmes majeurs de l'Épître aux Éphésiens. On l'a entreaperçu dans les textes jusqu'ici, et là, on est dans un véritable exposé de la vision de Paul à ce sujet. Alors, autrefois sans Christ, tu peux montrer le texte. Le verset qui précède juste notre texte, le verset 10, nous dit « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous nous y adonnions. » Et donc, qu'est-ce que sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance? D'abord, la première instance, la première chose qu'on nous demande, c'est de nous souvenir, de nous rappeler. Souvenez-vous donc de ceci. Nous devons nous rappeler où est-ce que nous étions, dans quelle misère collective nous étions, pour en être reconnaissants, pour mieux comprendre quel est notre privilège aussi aujourd'hui, pour les chrétiens. Et alors cette misère, elle est décrite dans ces versets. Vous voyez, je vais un peu donner une architecture, mais c'est le texte. Et en un mot, notre misère, c'était qu'on était non-juif, ou incirconcis dans la chair. Ok, alors c'est, pour la plupart d'entre nous, c'est vrai, on est d'origine païenne. Vous verrez que ça concerne aussi les juifs plus loin, si vous vous sentez pas concerné. Vous dites, bon, ok, non-juif, et alors? C'est quoi le problème? Pourquoi c'est tellement une misère? Et Paul nous détaille donc 5 carences dont nous souffrions. La première, être sans Christ. Il y aurait beaucoup à dire. Mais au moins dans le sens de l'Ancien Testament, tel que c'était plus clairement révélé, c'est d'être sans ce chef, ce guide, on est dispersé sans but, on erre, on n'a pas cette lumière, et surtout on n'a pas ce sauveur, lorsqu'on est loin de Dieu. Ensuite, privé du droit de cité en Israël. Quelque part, nous étions indésirables en Israël. Il y avait une distance et même une animosité entre les juifs et les non-juifs. Bien sûr, c'est un sujet qu'on a pu creuser pendant le week-end d'église. Malheureusement, c'est aussi un sujet d'actualité qui a noirci le XXe siècle et ça continue encore aujourd'hui. Il y a cette hostilité entre les juifs et les non-juifs. D'un côté, les juifs, ils ont cette loi qui les met à distance des non-juifs. Premièrement, les lois alimentaires. La donnée par Dieu, elle donnait des lois précises qui disaient que finalement c'était compliqué d'avoir des rapports avec les non-juifs facilement. Et plus encore, ensuite, les rabbins ont rajouté des règles supplémentaires pour être sûrs de respecter cette loi. Et on en était à, voilà, on pouvait presque plus s'approcher des non-juifs. On ne pouvait pas rentrer chez eux, manger avec eux. Strictement. Donc il y avait cet écart, quelque part, légal entre les juifs et les non-juifs. Et en face, déjà à l'époque, les juifs avaient un statut spécial dans l'Empire romain. Alors les gens sont un peu divisés pour savoir qu'est-ce qu'il était exactement, ce statut spécial. Mais en tout cas, ils étaient méprisés par rapport à leur loi, qui semblait bizarre à la plupart des païens autour d'eux, et en particulier la circoncision. Et puis à plusieurs occasions, ils ont été persécutés, ils ont été ils ont été expulsés, par exemple à Rome. Il y a eu des pogroms, donc c'est-à-dire des persécutions physiques, déjà à l'époque. Malheureusement, c'est pas terminé. Il y avait cette distance avec le peuple de Dieu, et aussi le fait qu'on était étrangers aux alliances. Alors, les alliances, c'est vrai qu'elles ont d'abord été données, dans l'Ancien Testament, à des juifs, enfin, ou aux ancêtres des juifs, en particulier on pense à Abraham, à Moïse, et puis peut-être à David aussi. En pratique, elles étaient inconnues des païens. Et puis encore aujourd'hui, en fait, la Bible est quand même largement méconnue, et toute une ambiance culturelle nous met une distance pour comprendre, pour connaître, saisir cette promesse de Dieu. Être étranger aux alliances de la promesse, c'est être hors du coup. Être exclu par rapport au plan de Dieu, en tout cas dans la manière dont nous on pourrait être en relation avec. On était loin de ce peuple de Dieu, et donc on était loin de Dieu lui-même. Enfin, alors, et encore le fait d'être sans espérance. Sans espérance, c'est un peu peut-être culotté de dire. Tous les non-juifs sont sans espérance. L'espoir fait vivre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On entend ça tout le temps. Et il y a bien des espoirs dans le monde, mais voilà, tant qu'il y a de la vie, après la mort, qu'est-ce qui reste? Ça me fait des fois réfléchir, qu'est-ce que c'est de vivre sans espérance? Ces espérances factices, où on sait que de toute façon, tout ce qu'on fait, ça va être réduit en poussière. On va être oublié des hommes à un moment. J'en parle, on va rester dans les mémoires pas longtemps. Pas longtemps. On oublie vite ce que c'est d'être sans espérance, après qu'on ait été soi-même unis à Christ. Et nous étions sans Dieu. Alors là encore, dans la société gréco-romaine, il manquait pas de Dieu. Il y en avait à tous les coins de rue. Et nous aussi d'ailleurs, hein. Les idoles ne manquent pas, ils sont pas coiffés de la même manière qu'avant, mais argent, sexe, pouvoir, famille, travail, relations, plaisir, politique, la liste est longue. Mais ces idoles, comme le dit la Bible, elles ne parlent pas, elles ne voient pas, elles n'entendent pas. Ce sont des vanités. Et quand on s'invente un espoir, on est sans espoir. Quand on s'invente un Dieu, on est sans Dieu. Ça me fait penser à des enfants qui jouent à la dinette, qui font semblant d'avoir à manger. Mais à la fin, ils ont le ventre vide. Le monde sonne vide quand on n'a pas de Dieu. Alors, en récapitulatif, l'homme loin de Dieu est étranger, sans avenir, seul. Souvenons-nous nous-mêmes, si nous sommes chrétiens, que nous partagions cette misère. Dans un monde sans but, nous étions hors du coup, sans espoir et sans vis-à-vis. Triste bilan, mais on arrive à un « mais maintenant ». Mais maintenant, par Christ. Il y a un mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans les versets suivants, on voit l'action, justement, de Jésus-Christ qui est puissante et même ravageuse. Il y a ces mots qui sont dits, il a détruit le mur de séparation. Il a réduit à rien la loi avec ses prescriptions et ses règles. Il a tué la haine. C'est des expressions qui sont fortes. On ne nous décrit pas ici quelque chose d'anodin, une paix pas chère, finalement on a retrouvé cette paix intérieure au fond de soi, ou un truc de ce genre-là, qui serait accessible à bon compte. Non, Jésus est allé arracher cette paix. Il y a, je reviens aussi longtemps en arrière, j'étais déjà né, en 1989, le mur de Berlin a été démoli. Et à ce moment-là, ça a fait naître beaucoup d'espoir. On s'est dit, ça y est, plus de frontières, libre circulation, plus de murs, ces murs de la honte, hein, comme on se plaît à dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de murs qu'à l'époque. Alors, différentes estimations, certains comptent 40 000 km de murs, de clôtures, pour faire des frontières, ou même à l'intérieur des pays, pour séparer les populations. On en connaît des célèbres exemples, il y en a qui parlent d'en construire des encore plus grands. Le mur de séparation. On voit ça même dans les actuels, ils parlent de mur de séparation. Alors, le mur de séparation, ici, il pouvait peut-être avoir une réalité tangible. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qui séparait les païens de l'endroit où pouvaient aller les juifs. Et c'était même, on ne pouvait pas le franchir sous peine de mort. Ça, c'était un droit que les Romains avaient donné aux juifs. Vous avez droit de cette zone exclusive, à cette zone exclusive. Et ce mur, il matérialise, en fait, cette loi qui mettait de la distance entre les hommes, les juifs et les non-juifs. Il y avait ceux qui étaient proches et ceux qui étaient loin. C'est un petit clin d'œil à Ésaïe que fait Paul ici. Ésaïe 57. Alors, Jésus a détruit ce mur de séparation. Comment est-ce qu'il l'a fait ? On a trois expressions, si tu veux passer à la slide suivante, voilà, j'ai mis en exergue, par le sang du Christ, dans sa chair, par la croix. Trois expressions qui désignent la manière dont Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé le châtiment qui était prévu par la loi pour les pécheurs, c'est-à-dire la mort. C'est quelque chose de très... il s'est impliqué lui-même, et il a payé dans son corps le prix de cette séparation. C'est finalement notre péché qui faisait qu'on n'était pas en paix avec Dieu. Et c'était vrai aussi pour les juifs, finalement. Quand bien même ils étaient bénéficiaires, ils avaient reçu cette loi, le nom de l'Ancien Testament est très clair, ils ne l'avaient pas mise en pratique. La loi devenait une condamnation. Et de la même manière qu'ils avaient reçu les alliances de la promesse, pour la plupart, ils n'ont pas mis foi en cette promesse. Ils sont restés loin de Dieu, en froid, même plus que ça, en conflit avec lui. Si bien que tous étaient soumis à la colère de Dieu. Comme on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, au verset 1 du chapitre 2, « Vous étiez morts ». Paul s'adresse en particulier aux Éphésiens qui étaient en majorité païens. Et au verset 3, « Nous tous aussi, les Juifs, nous étions de ce nombre. Nous étions par notre condition même destinés à la colère comme les autres. » Finalement, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient prêts avaient tous besoin de la réconciliation. Par la mort qu'il a subie et la vie qu'il a manifestée, Jésus a vaincu la mort. Et de même, par la haine qu'il a reçue et l'amour que lui a manifesté, il a vaincu la haine. C'est assez beau. Nous-mêmes, on était haïssables, on se détestait les uns les autres. C'est l'épître à Tite qui nous le dit. Nous étions tous ligués, tous les hommes se sont ligués, juifs et non-juifs, contre Christ. Les juifs, c'est évident, mais aussi les non-juifs, qui étaient représentés par les Romains au moment de la crucifixion. Nous méritions la mort pour nos fautes, mais Jésus a payé. En lui, nous sommes pardonnés. Et là encore, il n'y a pas besoin de se vanter, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas d'œuvre, on n'a pas fait d'œuvre bonne pour gagner ça. Nous sommes tous au même niveau, juifs, non-juifs, pauvres ou riches, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, de toutes les origines, tous à égalité, dans notre misère et au bénéfice de l'amour de Dieu. Romains 3, 22, car il n'y a pas de distinction, pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc Jésus a apporté la paix dans deux axes. Un axe vertical, on est réconcilié avec Dieu. Et un axe horizontal, étant tous ensemble réconciliés au bénéfice de la grâce de Dieu, nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Alors je l'ai mimé, c'est pas dans la Bible explicitement, mais finalement cette croix, elle nous montre donc cette réconciliation verticale et horizontale. Vous pouvez voir ici, pour mon schéma. On a cette réconciliation que Jésus vient faire, réconcilier les hommes avec Dieu, finalement, les hommes et les uns avec les autres. Et il y a cette, voilà, encore une fois, ce refrain qui revient, si tu veux montrer. Pour que les deux soient un. les uns et les autres. Un seul corps, un seul homme nouveau, les deux en un seul corps. Et c'est cette bonne nouvelle de paix qui est annoncée à tous. Alors cette paix, c'est pas seulement une pacification. À l'époque de Jésus, il y avait la Pax Romana, imposée par l'Empire. Tout le monde était en paix, sous le joug de fer de l'Empire romain. Nous, cette paix, c'est plutôt le shalom, une paix qui est une véritable harmonie avec Dieu et entre les hommes. Une communion comme un seul homme. Et c'est ce à quoi aspire toute l'humanité. Vous savez, on parle tout le temps de l'unité dans la diversité. Vous avez déjà entendu ça. Vous saviez que c'était la devise de l'Union européenne ? Alors c'est in varietate concordia, si vous voulez faire briller en société. Et en fait, c'est quasiment la même que la devise des États-Unis, qui dit e pluribus unum, de plusieurs un. Alors, ça c'est des déclarations des hommes. On se rend compte que c'est pas évident à réaliser. Hein, on le sait personnellement, on le voit aussi encore une fois dans les actualités. Mais en Jésus-Christ, nous, on a une réalisation concrète de cela. Déjà, même ce matin, quand je vous regarde, c'est un plaisir, et je vois des personnes, effectivement, des jeunes, alors on a mis les plus jeunes, on les a laissés partir, mais même des très très jeunes, et des plus âgés, des hommes, des femmes, de toutes les origines, de toutes conditions sociales. Et ça, ça devrait faire réfléchir nos hommes politiques. De ce qu'on essaie de faire, et qui, si, se réalise par la grâce de Dieu. Réunis pour célébrer la paix en Christ, comme on l'a chanté aussi ce matin. D'ailleurs, d'un point de vue peut-être plus philosophique, dans les visions du monde en général, on n'arrive pas à mettre cette idée de plusieurs et en même temps cette aspiration à l'unité. On parle du paradoxe de l'un et du multiple. Les Grecs cherchaient des essences, voilà. On cherche la quintessence qui unit toutes les essences. Ça, c'est quelque chose qui pose problème. Mais dans la vision biblique, ça vient de la nature même de Dieu. De toute éternité, Dieu est un. Il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas seul. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il me semble que l'Église reflète en Christ quelque chose de la diversité harmonieuse de la Trinité. En tout cas, c'est dans le verset qui suit, au verset 17, suspense, voilà. Il est venu annoncer une bonne nouvelle, on en a parlé, et aussi, par Jésus, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. La Trinité qui est là, qui vit cette communion, et cette communion pleine d'amour qui même en déborde jusqu'à nous, et qui nous invite à rentrer donc, dans cette danse. Je vais me dire peut-être que je m'enflamme un peu. Danse quand même, on parle de la Trinité. C'est une image que j'emprunte à C.S. Lewis, mais en fait, que j'ai retrouvée dans la Bible. Dans Proverbe 8, verset 30-31, on voit Jésus qui parle, la sagesse, le logos, et qui parle, de Proverbe 8, 30-31, « J'étais à l'œuvre à ses côtés, aux côtés de Dieu. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. » Quand j'ai lu ça, j'ai vérifié que jouer, ça voulait bien dire jouer. Et c'est un mot qui veut dire soit rire, soit jouer, soit danser. Il se passe cette joie dans la Trinité, entre le Père et le Fils, et avec les hommes qui sont invités, parmi les hommes. Et donc c'est donc à cette danse joyeuse dans l'intimité du Père, dans un même esprit, que nous sommes invités collectivement à rejoindre. Ça, c'est glorieux. Alors, on va, dans la dernière partie, il y a un petit développement donc, sur cette harmonie. Ainsi donc, en Christ, on va voir les conséquences. Et donc, il y a trois images, si tu veux, merci. Trois images qui sont données, trois illustrations de cette situation collective des chrétiens unis en Christ. Trois images où il y a une intimité croissante. La première, c'est, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, vous êtes concitoyens des saints. Vous n'êtes plus des étrangers avec éventuellement un visa temporaire. C'est un peu l'équivalent de la réalité qui est donnée là-dedans. On devient concitoyen. On acquiert comme une nationalité dans la patrie céleste. Et on sait qu'on a cette solidarité entre concitoyens. Bon, peut-être que c'est un peu compliqué aussi aujourd'hui, mais quand on a une Coupe du Monde, par exemple, alors les gens se mettent à sourire, on est champion. Ouais. On ressent un peu ça. Et puis quand on va à l'étranger aussi, on ne se sent pas forcément proche de notre voisin au quotidien, mais à l'étranger, croiser d'autres Français, on voit que peut-être qu'il y a quelque chose qui passe. Alors si vous êtes d'autres nationalités, vous pouvez vivre ça en France. Ce lien, en fait, cette solidarité qu'on a quand on fait partie d'une même cité. Et en Christ, on vit cela en Église. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il m'est arrivé de rencontrer un chrétien qui ne parlait pas ma langue et de voir qu'il y a... Alors, parler avec les mains, dans ces cas-là, vous connaissez cette situation. Mais il y avait quelque chose qui se passe dans un sourire, dans un regard. Tu dis, cet homme, on partage quelque chose ensemble. C'est frappant. Alors, l'image suivante, c'est celui de la même famille. On est tous membres de la maison de Dieu quand on est en Christ. C'est un lien qui est plus fort. Quand on est dans la même famille, on est près du Père, on est avec ses frères et sœurs. Là, on est dans une véritable intimité. Et enfin, la dernière image, qui est la plus développée, c'est celle de la même construction. Là, Paul a filé la métaphore, il y a plein de verbes qui parlent de cette construction. Là, on fait bloc. Alors, cette dernière métaphore, elle nous donne presque toute une théologie de l'Église. Ça fait peur, théologie. Hein. Mais dès qu'on lit la parole de Dieu, dès qu'on vit, en fait, on vit avec une théologie. Hein. Tout ce qu'on fait dans l'Église, est-ce qu'on le fait avec la bonne vision, en fait, quelque part? Et alors, j'ai relevé 4 points. Si tu veux, peut-être... Ouais, non, déjà, commence par la semaine. Le premier... Vous avez été construit sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes. L'Église est fondée sur les apôtres et prophètes à qui on doit la parole de Dieu, la Bible. L'Église n'est pas basée sur une institution, elle n'est pas basée sur une succession, elle n'est pas basée sur une tradition. On pourrait lister ce sur quoi elle n'est pas basée, c'est précis. L'Église est basée sur la parole de Dieu. C'est l'autorité finale pour nous. Deuxièmement, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Alors, on a déjà parlé un petit peu de pierre d'angle ce matin. Hein, on voit que les apôtres, justement, étaient raccords hein, pour nous parler de l'Église. Qu'est-ce que c'est la pierre d'angle? Je cherchais la définition. Pierre de construction placée à l'angle d'un bâtiment et participant à son soutènement. Il faut réaliser qu'à l'époque, au moment où on construisait un bâtiment, on ne coulait pas une dalle avec un coffrage. On construisait avec des pierres, en particulier en Israël, j'en ai déjà parlé, on ne construisait pas avec des briques, on construisait avec des pierres. Et on commençait par une grosse pierre bien taillée, qui allait servir à la fois de repère, qui allait donner un peu la forme de la maison, commencer à donner l'idée, et qui allait supporter le reste de l'édifice. Cette pierre est donc le repère et le soutien de la construction. Et pour nous, Jésus a ce rôle de repère, de soutien, quelque part en donnant les directions, il révèle qu'il est le chef, ça c'est un thème qui revient aussi dans Éphésiens, Jésus, chef de l'Église. Alors, je vais enfoncer un peu le clou, mais si un homme qui n'est pas Jésus-Christ dit « je suis le chef de l'Église », c'est un usurpateur. C'est en Christ qu'est l'Église, Et d'ailleurs, la vraie Église de Christ est en Christ. Alors, c'est là qu'il y a... ça devient un peu subtil par rapport à ce qu'on voit et ce qu'elle est vraiment. La vraie Église, elle est constituée des personnes qui sont en Christ. Alors, on peut être membre d'une Église comme l'Église de Palaiso, là, ce serait une Église avec un petit E, mais là, l'Église de Christ, ce peuple racheté, ça va être spécifiquement ceux qui sont en Christ. Alors, on peut... bien sûr, si on est dans cette Église, c'est normal que... On s'implique, on s'engage dans une église locale, mais c'est cette église spirituelle à laquelle d'abord on est rattaché. Enfin, alors, troisièmement, c'est, alors tu peux passer au verset 21, c'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Donc juste un petit point, mon troisième point, c'est une construction qui s'élève, qui croit. On est dans une dynamique. Ça a beau être un bâtiment, qui est, enfin, en tout cas dans l'image, hein, c'est une construction dynamique, c'est une construction en croissance. Et l'Église, donc, grandit, elle est appelée à grandir. Si on va rajouter des pierres à l'édifice. Enfin, et donc on l'a déjà lu, cette construction est un sanctuaire saint. Le sanctuaire, c'était vraiment le cœur du temple, une habitation de Dieu. On l'a chanté ce matin. C'est dans l'Église que Dieu se manifeste à nous. Alors bien sûr, dans sa grâce, Dieu est libre. Et il peut se manifester de plein de manières. Mais d'abord, la manière dont il se révèle, dont il choisit de se révéler, son mode d'action privilégié, c'est de se révéler dans l'Église. Alors, ça se vit comment ? D'abord, avec sa parole qu'on peut partager avec les frères et sœurs, qu'on peut vivre aussi dans nos actes, ensemble. Dans cette communion des frères et sœurs, dans cette interdépendance des pierres qui sont posées les unes sur les autres, qui ont un lien, et donc qui croissent en Christ pour être ce temple, un lieu de louange et d'adoration. Et on a encore à la fin un beau verset trinitaire. C'est en Christ que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. D'ailleurs, je l'ai mis en exergue aussi, juste après. Alors, voilà, c'est toute la plénitude de Dieu qu'on peut vivre en Jésus-Christ au sein du peuple qu'il a racheté par son sang, au sein d'un même esprit, l'esprit qui habite le cœur de chacun des chrétiens. Alors, devant ce spectacle plein de plénitude qui paraît parfait, qui est parfait ? À ce stade, vous vous dites peut-être, ce que je vis dans l'Église, c'est peut-être pas tout à fait ça. Je ne suis pas vraiment tout le temps en communion avec d'autres chrétiens, et voire même des fois, je ne suis pas en paix. Alors, d'abord, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment en Christ ? Sinon, ce texte, quelque part, ne s'adresse pas à vous. Il y a d'abord à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Que son sang sur la croix lave nos propres péchés. Maintenant, il y a quand même des choses à dire. D'abord, j'aimerais dire que c'est pas normal. Quelque part, d'après ce qu'on voit dans ce texte, on devrait vivre, c'est ce qu'on voit dans ce texte, on devrait vivre le plan de Dieu. Cette harmonie de l'Église, cette vision glorieuse doit nous motiver à prier, à faire des efforts aussi, en étant guidés par Dieu, pour que nous vivions cela. Et comme on l'a chanté, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous sauront que nous sommes ses disciples. Qui est-ce qui a dit ça ? Jésus. Merci Pierre. C'est Jésus qui a dit ça, en Jean 13, verset 35. Alors si on ne vit pas une vraie communion pleine d'amour basée sur la grâce de Dieu en Christ, alors il faut qu'on travaille ensemble en demandant à Dieu de nous guider. Et en même temps, est-ce que vous vous sentez vous-même assis dans les lieux célestes en Christ ? Parfois. Quand on le ressent, c'est une grâce. Hein. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours tangible. Et pourtant, c'est ce que nous a dit le verset 6. Hein. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. De la même manière, Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Aux saints. Est-ce que vous vous sentez tous les jours saints ? Alors, il y a ce que Dieu a créé en Christ et il y a ce qui s'accroche encore à notre chair. Et c'est pareil pour l'Église. La vraie Église de Dieu, elle sera pleinement révélée au retour de Jésus. Alors, nous avons cette espérance qu'au retour de Jésus, il la fera paraître devant lui sans tache ni ride, ni rien de semblable, comme disait aussi Paul, un peu plus loin dans notre texte d'Éphésiens. Mais on a cette espérance que Jésus revient pour révéler cette Église. Le plan est déjà accompli et il se révèle. Donc ça va se faire, quand bien même ça peut paraître grippé par moments. Alors, redoublons de zèle dans l'amour, en sachant que ça va se réaliser. Cette vision glorieuse est réellement en train de s'accomplir, et même si nous ne le voyons pas toujours. Voilà ce beau texte d'Éphésiens. Et j'ai envie de conclure en vous rappelant, comme j'ai fait avec mon premier verset, le texte de Babel en Genèse 11, qu'on a étudié il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez remarqué comment ce texte ici en Éphésiens fait écho ? Alors, je vous rappelle, à Babel, les hommes s'étaient unis, tous ensemble, tous les hommes du monde, dans un projet sans Dieu. Ils voulaient construire une ville et une tour. Ils souhaitaient qu'on se souvienne de leur nom. Ils ne voulaient pas être dispersés. Alors Dieu, alors qu'il l'avait exclu du plan, Dieu est descendu et les a dispersés en confondant leur langage. Et la construction est restée inachevée. Et là, nous, on part dans ce texte de ces hommes qui étaient dispersés, qui étaient divisés et sans espérance. Sans Dieu aussi. Jésus-Christ est descendu, comme Dieu était descendu, mais cette fois-ci, il s'est donné sur la croix pour réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux. Et maintenant, en Christ, par Christ, ils construisent un temple saint en paix, en présence du Père dans un même esprit. Alors qu'on puisse, soit qu'on puisse vivre davantage ce temple où Dieu est le centre et ne pas tomber dans cet orgueil de chaos de Babel où nous cherchons à être nous-mêmes au centre. Bon. Cherchons à créer des liens avec nos frères et sœurs dans l'Église. Et il ne s'agit pas, hein, on ne parle pas ici de pensée positive, tout va bien, on va se faire une méthode couée. Hein. Il faut savoir constater quand ça ne va pas. Et même parfois, on est appelé à reprendre, à s'encourager, à s'exhorter, à se reprendre. Mais ça doit être fait dans une attitude constructive. Constructive. On parle aussi d'édification. Tout ça, c'est encore du vocabulaire de construction. Sachant que nous faisons tous partie d'un même corps, d'un même édifice. Par ailleurs, quand on voit la place de cette église dans le plan de Dieu, alors on se pose des questions. Quelle est la place de l'église dans ma vie ? Est-ce que c'est une place en plus, voilà, une habitude, une tradition, un devoir ? Ou est-ce vraiment quelque chose qui est motivé, un engagement qui est motivé par cette vision merveilleuse de voir que Dieu réalise son plan dans l'Église et on a envie d'en faire partie. Souvenons-nous que nous sommes tous ensemble au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous étions autrefois loin, étrangers, sans espoir et sans Dieu, nous haïssant l'un l'autre. Mais Jésus-Christ a détruit la haine en nous rachetant ensemble par son sang versé à la croix. En Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu et entre nous. Je vais prier. Dieu et Père, on veut te remercier pour cette vision glorieuse que tu nous donnes de l'Église. Et on veut te remercier pour cette Église que tu construis. On veut te remercier pour l'expression de cette Église que tu construis ici à Palaiseau. C'est quelque chose de grand. On voit qu'encore... pour l'instant encore, tout n'est pas complètement à ta gloire, mais on sait que c'est toi qui construis. Donne-nous, pour chacun et pour tous, unis collectivement, de voir quelle est ta vision pour nous. Vivre davantage dans l'amour, à partir de l'amour que Dieu, tu nous as donné. Guide-nous, Seigneur. On veut t'adorer aussi pour la grâce que tu as révélée, que dans ces moments aussi où nous partagerons tous ensemble le pain, qui est ce corps qui a été brisé pour nous, nous puissions nous rappeler de quelle misère nous étions et ton plan pour nous unir. Amen.